Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Oui, Lolo, vas-y, raccroche ton casque. Nous sommes en direct, ça y est, direct live sur Radio Pluriel, Pluriel Gay, émission Pluriel Gay, avec à nos côtés, donc, Romain.
Bonsoir.
Bonsoir, Romain. Donc, ma petite Lolo va m'accompagner.
Bonsoir.
Et puis, le petit Bernardo aussi. Bonsoir, Bernardo.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Romain.
Voilà, bonsoir Bernard.
Alors Romain, du coup, on a décalé d'une semaine parce que normalement c'est le premier mercredi de chaque mois que nous nous retrouvons sur les ondes de Pluriel Gay. Mais en l'occurrence, nous avons décalé parce que, outre le numéro 101 de Hétéroclite, paraît ce mois-ci le guide tant attendu des sorties gays et lesbiennes en Rhône-Alpes. Donc la saison 2015-2016, le fameux magazine Out. Un magazine avec une couverture très colorée aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Rainbow flag, oui, tout
le
à
Rainbow
fait,
flag. Alors, Out, il y a un accent sur le U. Pour quelle volonté cet accent?
Alors, c'est une bonne question. On me l'a posé justement cet après-midi. Je ne savais pas y répondre pour la bonne raison que moi, je suis arrivé à Hétéroclite en 2009 au moment de la deuxième édition du guide Out.
Ouais.
Et c'était déjà comme ça.
C'était
donc,
comme ça.
Je suppose... Il faudrait que je pose la question au fondateur du journal, mais je suppose que c'est pour éviter des questions de droit de nom. À mon avis, le out sans accent doit exister quelque part ailleurs, et c'est pour éviter cette confusion-là qu'on a rajouté un accent.
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans le guide out, le guide des sorties, les restos, les boîtes, les discothèques?
Alors en fait, c'est un guide qui est agencé par département. Donc,
ouais.
Il y a
une partie... c'est Rhône-Alpin, donc ça reprend tous les départements de Rhône-Alpes.
Tout à fait. Donc, les 8 départements. Il y a une partie 1. On a rapproché l'Ardèche et la Drôme.
Ouais.
Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie qu'on a collé ensemble également. Donc, dans ces 8 départements, à chaque fois, on a les établissements qui sont triés. Alors, il y a les bars et cafés, les restaurants, les boîtes de nuit, tout ce qui est boutique, service, friendly. Les hôtels, les auberges, les maisons, les chambres d'hôtes, tout ça, les établissements de sexe, sex club et sauna, et les associations. Voilà,
voilà.
Pour chaque département. Et après cette partie proprement guide à proprement parler, il y a une partie soirée avec 12 pages qui présentent les principales soirées gays et lesbiennes de la région Rhône-Alpes.
Et elles sont nombreuses.
Et elles sont nombreuses. Voilà, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas intégrées parce que ça a été un peu difficile de joindre les organisateurs. Je pense par exemple à la Délice, qui n'est pas mentionnée, mais qui est aussi une soirée importante en Rhône-Alpes, qui fait d'ailleurs une soirée le soir de la Gay Pride. Voilà, il y a des soirées pour les filles, des soirées pour les garçons, des soirées pour les filles et les garçons.
Puis des soirées pour tout le monde.
Des soirées pour tout le monde.
Alors, l'année prochaine, d'ailleurs, Out va être plus épais, puisque nous allons intégrer, Rhône-Alpes va être intégré,
ouais.
Auvergne.
Tout à fait, oui.
Donc, ça sera Rhône-Alpes
Auvergne. Ça sera le guide Rhône-Alpes Auvergne.
Alors, outre Out, évidemment, tu es là aussi pour Hétéroclite, le numéro 101. Donc, on sait que le mois dernier, pour tous ceux qui nous ont écouté et qui ont suivi l'actualité, l'Hétéroclite, c'était le 100e, vous avez fait la fiesta...
Au lavoir public.
C'était
très chouette.
C'était bien. Alors, moi, une question que je pose toujours, est-ce qu'il y avait rien à foutre dans au lavoir public?
Oui, rien à foutre. Alors, t'es présente.
On peut noter qu'on la voit de plus en plus.
Oui.
Puisque je sais que vendredi, nous en reparlerons de cette soirée d'inauguration,
voilà,
de la quinzaine de
fiertes. Également.
Elle sera là. Mmh. Mais on m'a dit qu'elle ne parlerait pas. Mais on m'a dit aussi qu'il valait mieux qu'elle ne parle pas.
Voilà, c'est ça. Elle va faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire passer de la musique, s'empiffrer au buffet, peut-être.
Ouais. Voilà, boire des canons, peut-être.
Boire des canons.
Faire la pétasse un petit peu
faire
aussi.
Quand même.
Réajuster
voilà.
Ses collants.
Réajuster ses collants, sa poitrine.
Donc elle sera elle-même.
Tout à fait.
On peut compter sur elle.
Sans chichi.
Donc on évoque donc la soirée de vendredi au musée Gadagne. Puisqu'à partir de 19h30, on a eu Edwige Marty qui nous en a parlé ici, il y a 2 semaines. Donc, c'est l'inauguration de la quinzaine des fiertés à Lyon. La quinzaine des fiertés LGBT. Donc, cette année, c'est un anniversaire pour eux, puisque c'est la 20e édition de la marche. Et donc, ils ont souhaité mettre les petits plats dans les grands plats. Et la mairie du 5e donc, leur a ouvert l'espace du musée Gadagne.
En fait, c'est plutôt la mairie centrale qui
c'est la mairie centrale, oui.
Puisque le musée Gadagne est un musée municipal.
Municipal, ouais.
Donc, c'est géré par la mairie de Lyon, pas une mairie d'arrondissement.
D'accord. Donc, la mairie centrale leur a ouvert le musée Gadagne. Et c'est là qu'il va y avoir le grand happening de vendredi soir, à partir de 19h30. Où, donc, on a dit, on retrouverait Rien à foutre. Mais aussi, tu seras là, Romain, paraît-il, pour faire un discours.
Voilà,
on attend avec impatience, un peu avant.
Un peu avant. Bah, en fait, il y aura... en début de soirée, il y aura plusieurs discours. Il y aura Edwige, en tant que présidente de la LGP. Mmh. Il y aura le maire du 4e, je crois. Il y aura Georges Kepenekian, qui est le premier adjoint au maire de Lyon, qui est en charge notamment des droits des citoyens. Donc ça englobe la lutte contre les discriminations, pour l'égalité, tout ça. Voilà, on sera plusieurs à faire des petits discours. Et, je pense que ça ne sera pas long. Et puis après, il y aura ouverture du buffet, et puis il y aura un moment un peu musical avec Rien à foutre, donc, mais aussi Tati Charby.
D'accord.
Voilà. Et j'oublie quelque chose d'important, mais il y aura également une mini pièce de théâtre présentée par la troupe du Levant, qui est une jeune compagnie théâtrale lyonnaise.
Pour tout savoir, il faut y aller, quoi.
Pour tout savoir, il faut y aller. C'est évidemment gratuit, puisque c'est un événement public. Donc, c'est à 19h30, vendredi, au musée Gadagne. Et ça va durer jusqu'à, je pense, 22h30.
Le musée Gadagne, qui est un très beau lieu, en plus.
C'est un très beau lieu. Ça se passe au 4e étage, en plus. Et donc, ça va se dérouler, pour ce qui est les discours et la pièce... Ça va se dérouler dans le petit amphithéâtre qui est situé donc au 4e étage du musée. Pour ce qui est du buffet, ça sera en extérieur, dans les jardins qui sont vraiment très très beaux.
C'est là où on pourra me trouver si.
Voilà. côté d'une coupe de champagne.
Voilà.
Et puis.
Quelques toasts en main.
Pour le moment musical, ça sera au Café Gadagne.
Parfait.
Donc venez si vous êtes intéressé par les questions LGBT.
Voilà. Et puis c'est un événement quand même ce
sera l'occasion...
à marquer, puisque le 20e anniversaire...
Tout à fait, ce sera l'occasion à la fois d'ouvrir la quinzaine des cultures LGBT, donc qui commence vendredi, qui durera 2 semaines, et puis aussi de fêter le lancement du Guide Out. C'est un partenariat avec nos amis de la Lesbian Gay Pride de Lyon, et dont on est très content.
Bon. Moi, j'essaierai d'aller faire un petit tour aussi avec le micro de Radio Pluriel, hein, de Pluriel Gay, pour faire éventuellement quelques sons. Alors, maintenant que je l'ai dit, je vais le faire.
Puisque
avec
ton agra en bandoulière.
Voilà, avec mon...
Ton agra.
Mon agra.
Tu sais, l'appareil pour enregistrer les sons.
Oui, 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 c'est mon micro. Voilà. T'appelles ça comment? Un agra?
Un agra, c'est la marque.
Ah oui. C'est... Ah oui, je ne savais pas.
Voilà.
Je sais pas. Mais c'est ma marque à moi, ça?
Je ne sais pas.
Bon, c'est juste, tu sais, un truc que je tends vers les gens. Voilà. Ils ouvrent la bouche devant. Non, je rigole. Non, c'est vrai, c'est un micro, quoi. Bon, après, la marque, j'en sais rien. Par contre, il est très bien, mon micro. Il fait de très bons sons, hein, il faut le dire. Donc, j'essaierai, vendredi, j'arriverai un peu tard, mais. J'essaierai de prendre des leçons de droite et de gauche que j'essaierai de monter ce week-end pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, si les sœurs peuvent pas venir, parce que j'avais une émission prévue avec les sœurs, c'est pas sûr qu'elles puissent venir. Donc, la marche, c'est le 20. L'inauguration, c'est une semaine avant, c'est vendredi. Alors, dans Hétéroclite, plusieurs choses ont attiré mon attention, toujours concernant dans le cadre de la marche, et notamment l'édito. Parce qu'on parle toujours de ton édito, c'est toujours la première chose que je lis. Ce qui va donner un petit peu, donne un peu la teneur du numéro, je dirais, quelque part. Hein, c'est toi le chef de la ligne éditoriale, je dirais. Et là, en l'occurrence, tu nous as rappelé un petit peu quand même que c'était un petit peu soporifique, pas spécialement la marche des fiertés à Lyon, mais que c'était un petit peu gnangnan. Ce qu'on avait déjà dit, d'ailleurs, les mots d'ordre, tu as rappelé l'histoire de l'affiche parisienne, sur laquelle on peut revenir vite fait. Alors, l'affiche avait été violemment, n'exagérons pas, mais avait été... critiqué de par son contenu, par son visuel déjà, plus le mot d'ordre.
Ouais.
Le mot d'ordre a été changé.
C'était l'association surtout affiche et mot d'ordre qui était particulièrement désastreuse. Finalement, suite aux critiques, ça a été changé. Le nouveau mot d'ordre de la marche de fierté parisienne, c'est désormais multiple et indivisible. Voilà, que je trouve un peu creux et inconsistant. j'ai une préférence pour les mots d'ordre qui portent une revendication.
Voilà, c'est ce que tu dis dans l'édito.
Multiple et indivisible.
Ouais.
Oui, c'est un peu, pour moi personnellement, c'est un peu hermétique comme mot d'ordre. Ouais. Je n'arrive pas vraiment
Ah non, ça veut pas dire grand-chose. Ça aurait été aussi bien de porter des...
En fait, mais on voit clairement qu'ils ont eu peur de retenter, de refaire un deuxième scandale si ils mettaient quelque chose d'un peu accrocheur, non?
C'est quand même triste
on
que...
Va faire
le...
Nice. Ah oui, non mais...
C'est triste que l'inter-LGBT soit pas à même d'identifier les besoins de la communauté, ses revendications... D'ailleurs, un mot d'ordre, ça peut ne pas être forcément une revendication, aussi ça peut être plutôt tourné vers, entre guillemets, vers l'intérieur. Ça peut être l'occasion aussi d'inciter la communauté à se ressaisir ou à se mobiliser autour d'une cause. Moi, j'aurais bien vu, par exemple, j'aurais trouvé intéressant, en tout cas, un mot d'ordre, par exemple, autour de l'islamophobie chez les personnes LGBT. Là, ça porte pas une revendication en général, c'est pas un mot d'ordre adressé au pouvoir public directement, c'est plus un mot d'ordre qui s'adresse à l'intérieur de la communauté pour dire, voilà, débattrons-en, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce phénomène, comment on peut le contrer, etc. Voilà, donc, bon, moi j'ai un peu une préférence pour ces mots d'ordre-là. Celui de la marche parisienne, je la trouve un peu de gnangnan, quoi.
Et qu'est-ce que tu... Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des mots d'ordre et des affiches... c'est dans quelle ville, je ne me souviens plus. À Lille? Non, c'est pas à Lille. Où ils sont allés carrément à fond en ridiculisant le FN et justement le parallèle entre les homos, ouais, qui votent FN,
c'est
etc.
Ça, ouais. Voilà.
Et certains cadres du FN qui sont dans le placard.
Les folles ne sont pas toutes au FN.
Voilà, c'était Steve,
avec
Florian,
la grosse,
et ouais. Fabien. Donc Steve Briouat, Florian Philippot, qui ont tous deux été outés. Mmh. Et Fabien Engelmann, c'est l'ancien syndicaliste de la CGT qui est passé au FN, qui est devenu maire de...
Magnifique.
Maire d'une commune industrielle du
bassin minier de Lorrain.
Lorrain, voilà.
Lorrain, ok.
Dont le nom m'échappe à l'instant. Ouais. Voilà. Et pour dire, toutes les folles ne sont pas au front. Je sais pas, honnêtement, je suis un peu partagé. Je n'ai pas trop d'avis. Mm. D'un côté, je trouve ça bien que le tissu associatif lorrain prenne la mesure aussi de ce phénomène-là, des homos qui votent FN, et cherche à adresser ce problème et à y répondre. Après, est-ce que la méthode est la bonne? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'avis.
Je sais que le FN avait demandé à ce que le slogan soit retiré des affiches.
Ouais.
Alors, je
ne
sais pas par quelle voie ils l'ont fait, c'est par la voie judiciaire, on va dire, ou autre.
Je ne sais pas s'ils ont déposé.
Et je ne sais pas quel a été le résultat, en tout cas. Mmh. Mais c'est vrai que cette affiche a beaucoup fait parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux. Mmh. On l'a vu passer plusieurs fois. Pour revenir rapidement à l'affiche parisienne, par contre, le visuel est resté le même, je crois.
C'est-à-dire, oui, c'est toujours...
un personnage androgyne,
oui,
black,
ouais,
on va dire, ou
c'est
métisse.
Une Marianne.
Ouais, une Marianne. Ouais.
Une Marianne africaine.
Et le premier slogan rappelle que c'était « Nos luttes vous émancipent »,
voilà,
qui était une sorte comme de... On assénait quelque chose, en fait,
ouais,
à quelque sorte. Hein, et ça avait beaucoup été critiqué comme un petit peu, ouais, hein, du post-colonialisme, etc. Donneur de leçons. Voilà. Bref. Bon. Donc on a maintenant hérité de, comment tu dis, ridicule... Non, pardon. Indicible. Non, c'est quoi? Indivisible.
Multiple et indivisible.
Voilà. Bon. Alors nous, chez nous, à Lyon, en terre lyonnaise... La marche a choisi Fier de nos luttes. C'est ça, on est d'accord? Je ne me trompe pas?
Ouais, 1995-2015, Fier de nos luttes, continuons de marcher.
Mais, alors je sais, tu vas me dire c'est insipide aussi, peut-être, mais tu as remarqué qu'il y avait des points levés, donc c'est révolutionnaire.
Oui.
On est toujours dans la révolte, dans la revendication.
Non, j'ai pas dit que c'est insipide.
Non, j'ai pas dit que tu as dit ça.
Oui, oui. Hein. Non, c'est pas...
Tu dis quand même que c'est un peu gnangnan dans les litos.
Non,
aussi,
je dis pas ça comme ça. Je dis que je préférais le mot d'ordre de l'an dernier.
Oui, non, mais c'est sûr.
Il était péchu l'an dernier.
C'est
il était
sûr.
Péchu. Il,
oui,
était là, il portait des revendications pour le coup.
Mais c'est ton côté maoïste.
Il a sorti le polo d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Le polo rouge.
T'as eu des retours de personnes de la LGP?
Oui, alors elles ont expliqué. Bah, j'imagine que c'est ce que Edwige vous a dit aussi quand elle est venue.
Alors Edwige, je vais y arriver, on lui a posé la question,
oui,
dont nous avions un peu débattu ensemble,
oui,
le mois dernier, et elle nous a affirmé qu'il n'avait eu aucune pression de la part de la municipalité de Lyon pour un mot d'ordre qui soit un peu plus consensuel et un petit peu moins provocateur que celui de l'année dernière.
Oui, mais ça, je la crois sur parole. C'est-à-dire que dans l'édito, j'évoque effectivement le fait que l'an dernier, le mot d'ordre avait été critiqué à la fois par le maire de Lyon et par notamment par le premier fédéral du Parti socialiste du Rhône. Et je dis, on imagine que...
Bah toi, tu parles d'autocensure. Tu t'es dit qu'ils sont autocensurés.
En fait, je sais bien que je les connais suffisamment pour savoir qu'ils sont capables aussi y compris de rentrer dans l'art quand ça va pas, etc. Mais ma critique, elle est plus portée contre les gens qui ont critiqué le mot d'ordre l'an dernier et qui, du coup, c'est une façon aussi de faire pression sans que les choses soient dites, en fait, tout simplement. Et évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un coup de fil de Gérard Collomb qui appelle Edwige en lui disant attention, cette année, le mot d'ordre, il faut que ça soit.
Qu'on aurait pu penser qu'ils auraient pu subir, pas directement de Collomb, mais quand même des remarques de la part de la mairie centrale.
Oui, et puis bon.
Surtout que cette année, le musée Gadagne.
Voilà, il travaille étroitement avec la mairie, ce qui peut se justifier aussi. Voilà, notamment pour avoir. Le buffet inaugural soit servi dans des lieux qui appartiennent à la mairie. Moi, je trouve que c'est ce genre de déclaration faite l'an dernier, ça crée un climat propice à l'autocensure. Alors, loin de moi l'idée de penser que les militants de l'AIGP se sont couchés, mais je trouve que ceux qui ont fait ces déclarations l'an dernier auraient mieux fait s'abstenir, parce que ça ne peut que jeter la suspicion sur les militants.
Alors, ce qui était amusant, c'est que j'ai vu passer, toujours sur les réseaux sociaux, nous vivons avec maintenant les réseaux sociaux, des commentaires amusants concernant, donc, parce que toi tu avais parlé des points levés aussi, je crois, c'est dans l'article, dans l'édito, quand tu as retourné que c'était plutôt en hommage au fist.
Au fist, voilà.
Qui est désormais. Le fist étant désormais collé à l'image d'hétéroclite. Ouais. Enfin, j'exagère un peu, mais vu l'article qu'il y a eu, finalement, qui fait beaucoup parler de lui, et qui est resté dans les annales, si j'ose dire. Ouais.
Le fist est tendance, je pense que c'est la tendance 2015, effectivement.
Voilà.
Parce qu'il y a eu
et Hétéroclite était en avance.
On était en avance. Et puis,
on était pas le seul. C'est-à-dire qu'il a lancé il lance les modes, mais presque là, dans ce cas-là.
Oui, bon,
on avait beaucoup parlé du fist aussi à la radio, à l'occasion de ce numéro.
Tout à fait, ouais. C'était un grand moment de radio.
Effectivement. Nous en souviendrons longtemps.
Nous avions une auditrice particulièrement attentive.
Exactement.
Et présente.
Donc, avant de passer à la pause musicale, je voudrais simplement, pour finir un peu avec la marche, on rappelle la marche de Fierté en elle-même, c'est le samedi 20, cette fois-ci qui va faire une boucle, belle cour.
Mm-hmm. Hein. Qui ne passera donc pas par le cinquième.
Alors, oui. Alors,
c'est
là
pour les mines. Ajouter quelque chose par rapport à ces mots d'ordre. Tu précises, alors du coup, j'ai pas vérifié, mais c'est intéressant, tu précises quand même que les fois où le mot d'ordre de la marche des fiertés a été les plus incisifs et les plus marqués politiquement, c'est y a une loi, une nouvelle loi qui a été suivie.
C'est mon jugement personnel, c'est je trouve que les mots d'ordre les plus intéressants. En fait, dans le numéro de juin, on a fait un panorama des 19 précédentes éditions de la marche des fiertés LGBT à Lyon, avec pour chaque année, donc depuis 1996. Une photo et le mot d'ordre de la marche cette année-là.
Mmh. Et, c'est au début du mensuel, du magazine.
Voilà, page 6, 7.
Page 6.
Et du coup, c'était l'occasion de passer en revue les différents mots d'ordre. Et moi, je trouve que les plus marquants, c'est ceux qui sont en lien avec une avancée sociétale, ceux qui portent une revendication. Par exemple, en 1998, c'était pour l'égalité des droits. C'était en plein débat sur le PACS.
Mais moi, j'ai bien envie de les citer parce que je trouve ça assez historique finalement. Ouais. En 96, c'était pas vraiment la première 96. Il y en avait une en 95, mais sans organisation précise de la LGP, je crois. Hein, parce que la première, c'était en 95.
Ah bon?
Oui.
Tu m'apprends quelque chose.
La LGP est né en février 96.
D'accord.
Mais en 95, il y avait eu. Mais bon, c'était pas sous couvert, pas organisation LGP.
C'était pas officiellement.
Je rappellerai très vite en parenthèse aussi qu'en 1980, à Lyon. je n'étais pas né, je vous rassure, si j'étais né, parce que je les ai vus passer, malheureusement, j'étais très jeune à l'époque. Malheureusement, je dis malheureusement.
Tu étais enfant.
C'est la première fois que je voyais défiler des gays et des lesbiennes dans la rue pour revendiquer. C'était à l'occasion donc d'un jugement qui avait été rendu par le tribunal de Saint-Étienne, par le tribunal de le TGI, je pense, de Saint-Étienne, concernant la garde d'un enfant d'une femme donc qui avait quitté son mari, qui s'était mise en ménage avec une autre femme, et le mari réclamait donc la garde des enfants, en disant que la mère n'était pas compatible pour l'éducation des enfants, vu que bon, etc., etc. On connaît les arguments habituels. Et à cette occasion, l'occasion de ce je ne sais plus comment le TGI avait tranché, mais ça avait fait du bruit. Et c'est la première fois que des homos et des gays, des gays et des lesbiennes, en tout cas, ont manifesté dans les rues de Lyon. Alors, c'était pas une gay pride, hein. C'était revendicatif, un peu comme à Paris, avant, au 1er avril, il y avait aussi une marche de lesbiennes et de gays, mais qui était dans le cadre de l'élection présidentielle. Oui. Là, c'était dans le cadre de cette affaire. C'était la première fois qu'on envoyait défiler. C'était pas une marche, mais moi, ça m'a marqué. Tu vois, c'était très revendicatif. Et je me rappelle un des mots d'ordre, c'était hétéro, c'est trop.
Ah, c'est bon ça.
Et ben, on peut dire que ça a été le premier mot d'ordre d'une première marche des fiertés lyonnaises. Et c'est la deuxième fois en France, après donc Paris, l'événement du 1er avril dont je parlais à Paris, qu'il y avait eu une manifestation importante comme ça. Il y avait eu 2000 personnes dans les rues de Paris. Dans les rues de Lyon, pardon, Paris, ça avait été 10 000, Lyon 2 000, pour cette affaire. Et en plus, ça concernait l'homoparentalité, donc c'était encore plus en avance. Lyon était encore une fois en avance. Non, je rigole. Un peu cocorico, vous
savez. Comme pour les Vélov. Hein.
Voilà, comme pour les Vélov, c'est pareil.
Moi, je veux juste qu'on parle un peu de la photo de 2006. Ouais.
Alors, attends, j'ai juste...
Excuse-moi,
alors, vas-y. Oui, je vais juste citer les mots d'ordre jusqu'à 2006, justement, puis tu peux en parler à la photo. 96, c'était contrat d'union sociale maintenant. C'est le fameux CUS, qu'on avait appelé le CUC, puis c'est appelé le CUS. C'était déjà une revendication. Ça fait rire Laurent, je ne sais pas pourquoi. C'est déjà une revendication à l'époque pour
oui,
le PACS.
En fait, oui, en fait, c'est l'ancêtre du PACS.
C'est l'ancêtre du PACS. Alors, 1997, homosocialité, citoyenneté, visibilité.
Je l'aime bien celui-là, moi.
Tu aimes bien celui-là?
Ouais.
Bon. On pourrait voter, tiens, on aurait...
voter pour votre mot d'ordre préféré.
Voilà. 1998, pour l'égalité des droits. Alors, soit on a des mots d'ordre... qui sont sobres, ouais. Soit on a des mots d'ordre généraux, soit on a des mots d'ordre qui sont très axés, là. Le contrat d'union sociale, c'est très axé. Pour l'égalité des droits, c'est beaucoup plus général, ça englobe tout le monde, en fait. Hein. Et pas seulement les LGBT, d'un certain côté. 1999, droit au respect pour le PACS contre l'homophobie. Et là, on était en plein débat sur le PACS.
On se rappelle débat très violent.
On se rappelle de Christine Boutin.
On avait découvert Christine Boutin.
Voilà. Voilà. Elle avait rendu la Bible à
l'Assemblée
nationale.
Le fléau, on découvrait le fléau.
Voilà. Et le fléau sévit toujours.
Ouais.
Un peu décati, mais il sévit toujours. Alors, l'an 2000 est arrivé, c'était Ensemble contre les discriminations. 2001, pour en finir avec les discriminations.
Voilà, c'était quasiment le même. C'est pour ça que je me moque un peu dans les tutos.
Est-ce qu'il est moqueur?
Ouais, je serais moqueur. Non, après, c'était aussi, je crois, du coup, c'était aussi dans 2000, une période où on ne parlait pas beaucoup de discrimination homophobe, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Voilà, peut-être que ça pouvait rétrospectivement, ça pouvait peut-être se justifier en 2000. C'est juste que je me moque un peu parce qu'en 2001 c'était quasiment le même, quoi.
Ah oui, 2000-2001,
c'est ce que je reproche justement aux mots d'ordre. En fait, je prenais cet exemple pour montrer que des mots d'ordre un peu trop vagues, et finalement, bah, ça peut s'appliquer à n'importe quelle année, n'importe quelle époque.
Ouais.
Et puis on pourrait, sans résultat aucun, puisque ce mot d'ordre, on pourrait aussi bien le reprendre demain, quoi, Ensemble contre les discriminations.
2002, même droit, même devoir. 2003, homo-hétéro, nos empreintes sont toutes les mêmes. Ça, c'est beau, hein.
Je le trouve, moi...
Ça fait un peu New Age, non? Les empreintes qu'on laisse sur Mère Nature sont toutes les mêmes.
Oui, c'était peut-être l'époque New Age de la LGP. 2004, l'homophobie tue, exigeant une loi.
Alors ça, c'est en lien avec la fameuse loi contre l'homophobie qui a été votée en décembre 2004.
Ouais.
30 décembre 2004, une loi qui, pour la première fois, pénalise la tenue de propos publics homophobes.
Il est bien celui-là, l'homophobie tue. Les jeunes,
2005, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, juste pour dire que c'est lié aussi à l'agression début 2004 d'un jeune homosexuel. C'est l'affaire Sébastien Nouchet, un homme d'une trentaine d'années qui prétend avoir été agressé par ses voisins, aspergé d'essence, brûlé vif.
Ça fait beaucoup de bruit médiatiquement.
À l'époque, le président Chirac avait condamné, toute la classe politique avait condamné. Bon, après, on s'est aperçu au fil des mois que l'affaire devenait de moins en moins claire, que cette personne avait un passé suicidaire, qu'on n'était pas sûr de la véracité de ses propos. Enfin, on n'a jamais vraiment su le fond de l'affaire, mais toujours est-il que cette loi, qui de toute façon était en discussion, qui n'est pas besoin de ce fait divers pour être débattue, mais qui était déjà un peu dans l'air du temps, finalement, cette loi contre l'homophobie est passée en 2004, qui pénalise les propos homophobes.
Alors, 2005, on avait toutes et tous contre l'homophobie, le suicide, le sida et les discriminations, et on arrive donc à 2006, sur laquelle on va s'arrêter par rapport à la photographie que tu veux commander. Alors, le mode commenté. Laurence.
Parentalité, mariage, égalité maintenant. Donc voilà. C'est très bien. Moi, ce qui me plaît sur cette photo, c'est Gégé Collomb.
Ouais.
Alors, il est sur la photo entouré de...
On dirait qu'il est en train d'inaugurer quelque chose.
De militants.
Il lève la main aussi.
Et surtout, tu regardes sa petite bouche légèrement pincée.
Il est face à David Souvestre.
Et on voit qu'il est à l'aise quand même. Hein. On voit que là, il est dans son élément, qu'il est bien. Il est heureux d'être là, Gégé. Voilà. Je trouve qu'elle est importante, cette photo.
Et tu crois que David Souvestre le regardait droit dans les yeux en l'air de défi.
Peut-être qu'il est troublé par la beauté de David Souvestre.
C'est ça.
Ça doit être ça.
David, si tu nous écoutes, il faudrait que tu nous révèles le fin fond de l'affaire.
Que s'est-il passé ensuite? Bref.
Non, et puis en plus, c'est novateur, puisque donc, c'était la dernière Gay Pride avant la dernière marche de fierté LGBT, avant la présidentielle de 2007, avec ce mot d'ordre donc, qui revendiquait le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homo. Donc c'était assez précurseur. Hein. Et donc on a Gérard Collomb à cette marche, alors qu'officiellement, il va se déclarer pour le mariage et pour l'adoption uniquement en 2010 ou 2011, je crois. Donc, il était là, mais il adhérait pas trop au mot d'ordre encore à l'époque, mais
il était là. Mais bon, en même temps, c'est vrai que, comme disait Laurence, on a l'impression qu'il est un petit peu crispé aux entournures. Oui, l'impression qu'il serre les fesses.
C'est les officiels, mais qu'est-ce que vous voulez. Ils sont tous comme ça.
Bon, ouais. Allez, on est mauvaise langue. 2007, pour l'égalité, ne transigeons pas. 2008, pour une éducation sans aucune discrimination. 2009, respectons la transidentité, refusons la transphobie. Premier mot d'ordre uniquement, enfin, axé
sur les trans.
Sur,
voilà, on s'est qu'il avait fait un gros barouf à l'époque, notamment. Il y a une partie du milieu commerçant gay, lesbien, lyonnais qui s'était révolté contre ce mot d'ordre parce qu'il trouvait que
trop ciblé
et que c'était trop réducteur de cibler uniquement les trans et qu'il aurait fallu quelque chose de plus vaste qui parle aussi des gays et des lesbiennes. Voilà, donc des débats très vifs, très animés.
Oui, le reflet des débats qui ont lieu aussi, qui ont eu lieu en tout cas dans le mouvement communautaire associatif LGBT. Parce que le fait d'associer les trans aux revendications gays et lesbiennes, ça n'a pas été toujours très évident en réalité. Même encore maintenant. Ouais. Beaucoup de gens sont gênés aux entournures d'associer les thématiques trans aux thématiques gays et lesbiennes.
Je sais pas, je pense que dans le milieu associatif, c'est quand même...
Mais maintenant, ça va mieux. Il y a eu des époques où c'était difficile, surtout au début, et notamment en 2009, on le voit bien. Peut-être que si, à nouveau, il y avait le même mot d'ordre, ou semblable en tout cas, lié à l'identité transgenre, donc à la thématique transgenre, ça ferait peut-être moins de bruit. 2010, droit au séjour, droit d'asile. Ne transigeons pas, protégeons les LGBT. Ça, c'est droit d'asile des personnes notamment qui fuient leur pays pour raison d'orientation sexuelle.
Oui, il y avait eu plusieurs cas cette année-là d'hommes migrants que la LGP avait défendu justement parce qu'ils fuyaient en fait l'homophobie dans leur pays d'origine. Note personnelle, c'est ma première Gay Pride.
C'est vrai. En 2010, la première des Gay Pride de ta vie.
Eh oui.
Et comment ça se fait si tardivement, parce que t'es quand même pas si jeune que ça. Si...
Sympa.
Écoute, j'ai mis du temps à découvrir tout l'intérêt du militantisme LGBT. voilà, c'est vrai que c'était ma première Gay Pride en 2010.
D'accord. 2011 pour l'égalité. En 2011, je marche. En 2012, je vote. Voilà. Alors ça, c'était, je crois que c'était national, ce mot d'ordre, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ouais.
À Paris,
à l'époque, il y avait
notamment.
Déjà une polémique.
Ouais.
En fait, chaque année, il y a une polémique.
Oui. Moi, je n'aime pas trop ce mot d'ordre, mais bon,
Il y avait une polémique sur le visuel. Vous vous rappelez, c'était le coq blanc avec son boa rouge.
C'est l'année du boa.
Il y avait déjà une polémique sur le visuel. Et il y a des gens qui avaient aussi reproché le mot d'ordre en soi, en disant en 2011, je marche, en 2012, je vote. Enfin, qui trouvaient que ça sous-entendait « je vote pour le PS ».
Ça sous-entendait « je vote pour le PS » de toute façon.
Bah, ça sous-entendait « je vote pour un parti qui va défendre l'égalité
».
Après, ça laisse...
Bon, il n'y avait pas que le PS.
Il n'y a pas que le PS.
Mais quand même, on sentait sous-jacent, notamment dans le monde associatif de l'époque, qu'il y avait une volonté quand même...
Bah, c'était la critique qui a été faite.
Voilà. De voter Hollande.
Mais en même temps, c'est important aussi... à l'époque, justement, j'avais interviewé à la fois David Souvestre de la LGP et puis Didier Lestrade, qui justement faisait partie de ceux qui critiquaient ce mot d'ordre. Et même lui, il reconnaissait que c'est important aussi que la communauté qu'elle prenne conscience aussi de l'importance du vote et que cette question de l'égalité fasse aussi partie de ses critères de choix dans le vote.
Bien sûr, ça va de soi. Après, bon, chacun est libre d'étudier les programmes des uns et des autres. Sachant justement, finalement, oui, que Hollande, effectivement, n'était pas le seul à proposer le mariage pour tous et l'adoption et la filiation. Mmh. 2012, santé, égalité, droit des trans, les LGBT n'attendent plus. Déjà, voilà. Droit des trans, à cette époque-là, ça avait moins fait de bruit, justement. Mais on a à nouveau...
Et parce que c'est mélangé.
Oui, parce qu'il y a santé, égalité, LGBT. Droit des trans. Ouais. Les LGBT n'attendent plus, oui, c'est vrai.
Là, c'est juste après la présidentielle, la victoire de Hollande, et je crois que c'était entre les deux tours des législatives.
Ouais.
Donc c'était aussi une façon de mettre la pression sur les électeurs en disant...
poursuivez dans la dynamique.
Poursuivez dans la dynamique. Mm. Et sur la photo, on a choisi une photo où on voit Najat Vallaud-Belkacem.
Voilà. Donc c'est la deuxième photo sur laquelle figure un élu,
voilà.
On va dire.
Et qui, à l'époque, était du coup ministre des droits des femmes.
Voilà.
Qui venait d'être nommée ministre.
Elle a l'air moins crispée, quand même.
Oui, oui.
Plus gégée.
Oui, c'est vrai qu'elle est mignonne, Najat Vallaud-Belkacem. Elle a un joli sourire.
Oui, c'est vrai,
elle est toujours très souriante.
Oui.
Donc du coup, elle est là, oui, évidemment, pour soutenir la marche. Gégé en 2006, en 2012, Najat. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'hommes de droite, en général, en tête des marches, il faut le reconnaître quand même.
Non.
Hein bon. Il faut reconnaître que Vera.
Non.
En Angleterre, à la Pride de Londres, la Pride de Londres a décidé d'exclure le groupe des gays de UKIP, le parti eurosceptique. Ce qui est l'équivalent de...
Oui, qui est associé au FN en France. Ouais.
Voilà, c'est ça, et qui est notamment violemment anti-immigré et anti-islam.
Mm. 2013, PMA pour toutes, luttons contre le sexisme et la lesbophobie. Je vais y arriver, et la lesbophobie.
J'aime bien celui-là, moi.
Oui, moi aussi.
Oui, il est bien, ouais.
Et j'adore la photo.
Mais ne serait-ce point rien à foutre.
Mais oui.
Je crois bien que c'est elle, en effet.
Eh bien, en effet. Enfin, on a un visuel de Rihanna. Enfin, bon, moi, je la connais pas personnellement. C'est vrai qu'à chaque occasion où elle sortait de sa boîte, moi, j'étais pas là. Mais pour ça que vendredi, je me
précise. Avec un Village People à ses côtés.
Oui, Village People, effectivement. Et rien à foutre.
Moi, je me souviens de ce jour-là, j'ai pu profiter de la beauté de ses jambes à loisir.
Elle a l'air d'avoir de belles gambettes, c'est vrai.
Je confirme.
Mm. 2014, droit des trans, PMA, IVG, GPA. Bon, c'est le fameux mot d'ordre dont nous avons parlé. Hein. Droit des trans, PMA, IVG, GPA.
Celui-là, je crois que c'est mon préféré.
Il était beau, hein.
Ouais,
et puis surtout par rapport je trouve que la polémique qu'il a entouré le rend encore plus beau finalement.
Oui, j'aime bien.
Que du coup, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup PMA pour toutes. J'aime beaucoup respectons la transidentité, refusant la transphobie.
C'est PMA pour toutes, hein, effectivement. Je me demande si j'ai pas dit PMA pour tous. C'est PMA pour toutes, luttant contre le sexisme et la lesbophobie. Et en plus, j'ai écorché lesbophobie. Alors on va me dire que ça y est.
Bah oui, une fois de plus, Gérald. C'est ce qui te pend au nez, macho.
Ouais. Bon, en tout cas, 2014, c'était celui dont nous avons parlé.
Non, mais il y en a eu des beaux quand même.
Oui, bien sûr. C'est émouvant de regarder tous ces années.
C'est la séquence un peu émotion, souvenir.
C'est la séquence Drucker de Pluriel Gay.
Ouais. Et je tiens à remercier d'ailleurs, je dois dire que pour les photos, on s'est beaucoup appuyé sur Michel Chomara, sur Julien Delahaire, qui a réalisé plusieurs photos ces dernières années de Marche de Fierté à Lyon. Et puis sur un site qui s'appelle Hexagone Gay, qui est un site qui est assez extraordinaire, je trouve, qui est vraiment très bien fourni sur la mémoire en fait de l'homosexualité en France Et c'est, en fait, en plus, ils font ça vraiment région par région.
Ouais.
Donc, on peut voir en Basse-Normandie quel était l'état du mouvement gay dans les années 70 en Basse-Normandie, par exemple.
Ouais.
Ouais. C'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de photos. Tous les établissements aussi qui ont disparu. Alors, à Lyon, par exemple, il y a la petite taverne. Ce genre de lieu.
Ouais. Bon, voilà, c'était donc assez simple. Non, mais Hexagone Gay, je le connais, c'est très bien, effectivement. Lolo, donc du coup, on va passer à notre petite pause musicale
que
tu as prévue. Alors, de quoi s'agit-elle ?
Alors, bah, du coup, en fait, dans Hétéroclite, il y a un petit passage sur les nuits de Fourvière. Et surtout, où nous constatons que certains artistes sont invités très régulièrement au festival. Donc je me suis dit, bon, on va continuer à parler de ça. Et du coup, je me suis dit qu'on allait passer du Björk.
D'accord. J'ai eu peur.
Parce que...
J'ai eu peur que tu nous mettes du Yael Naïm.
Non, t'inquiète pas.
Personnellement, il y a un peu...
Ou du Calogero.
Ou du Calogero, ouais.
Non, du Björk. Parce que, donc, Björk, elle est de retour donc, cette année. Moi, j'aime les trois premiers albums de Björk. Et l'album du film de Lars von Trier. Voilà. En gros, les quatre premiers albums. Mais après, j'aime pas du tout. Donc, moi, je ne vais pas aller voir Björk le 20 juillet. Donc, j'ai choisi une chanson, la première chanson, Army of Me, qui est l'album Post, qui est son deuxième album.
Très bien.
Voilà.
Ah ben on va s'écouter ça. Sur Pluriel Gay, si Bernard le veut bien. Bernardo.
Bernard,
il y avait une pub, c'était.
Enclenché.
Bernardo, porcelaine de Limoges, tu te rappelles pas cette pub? We'll be right back.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Ah, c'était la fin
de
York.
Ah, voilà.
On aurait dit les dinosaures dans Jurassic Park.
C'est vrai qu'il sort aujourd'hui, le nouveau Jurassic Park. Donc, très vite fait, on va évoquer, mais vraiment rapidement, parce que le temps tourne.
Rapidement.
Le remet, les dinosaures, on est attaqués par les dinosaures.
Ouais, on dirait les vélociraptors. Hein.
Alors, donc, très rapidement, on a vu donc, qu'il y avait eu une manif contre la GPA
lundi soir, dans le 5e arrondissement.
Ce qui pose aussi un petit problème, qui fait un petit peu polémique, parce que du coup, on a un peu conseillé les GP, on a même fourni un parcours, je dirais, clé en main de Bellecour à Bellecour, qui ne passe pas par le 5e à cause des provocations permanentes du GUD, notamment, hein, des groupuscules d'extrême droite qui sont un peu associés, finalement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à cet arrondissement.
Bah parce qu'ils ont leur local là-bas, en fait, tout simplement, hein, la Traboule située dans le Vieux-Lyon. Et effectivement, la Lesbian Gay Pride avait demandé à la préfecture l'autorisation de passer dans le... Enfin, par les quais... les quais qui longent les quais de la Saône, en fait.
Ouais. Passer sur le pont et puis...
Voilà, longer les quais de la Saône.
Ce qui aurait été sympa.
Côté 5e. Et la préfecture leur a dit bah, écoutez, non, c'est compliqué, on n'autorise plus trop de manifestations dans le quartier parce que, à cause des troubles justement que peuvent représenter les identitaires lyonnais. Et donc lundi, il y a cette manifestation. Donc la LGP avait accepté, et donc lundi, il y a cette manifestation contre la GPA. Du coup, la LGP, ça peut se comprendre, a un peu les boules et a un peu l'impression d'un deux poids, deux mesures.
Il y a deux fiefs, quoi, LGBT.
Ah, c'est sûr que
les
anti-GPA risquent pas de se retrouver, de se faire agresser par les anti-terres lyonnais, puisqu'au contraire, ils sont d'accord au moins sur ce point-là. Donc, l'argument de la préfecture, c'est de dire, bah, écoutez, nous, on peut pas bloquer, ça va bloquer tout le centre-ville, quoi.
D'où la polémique, un petit peu, la LGP s'entend un peu défavorisée.
La LGP a publié un communiqué de presse par laquelle, pour manifester sa colère à l'égard de la préfecture et pour... ils expliquent qu'ils ne veulent pas prendre en otage les associations organisatrices, hein, puisque la LGP en fait rassemble plusieurs associations, mais que donc ils vont pas changer le parcours à la dernière minute comme ils en ont le droit, mais par contre que l'an prochain, en 2016, ils veulent passer par le 5e arrondissement.
Cette manifestation était organisée par la Manif pour tous,
par la Manif pour tous, par plusieurs collectifs lyonnais, comme Ensemble pour l'Enfance, qui y a Gavroche et Cosette, qui sont vraiment des collectifs nés à Lyon.
Et qui ont
rejoint la grande famille de la Manif pour tous.
Ouais. Donc la suite des événements, on a tiré donc quelques éléments d'Hétéroclite, quelques articles. Bon, comme d'habitude, Hétéroclite est très fourni. Et il nous reste pas beaucoup de temps donc pour parler de tout. Et puis l'intérêt c'est de le lire surtout. Mais tu avais évoqué l'idée, mon petit Romano, que nous pourrions je précise Romanos pour les intimes. Donc tu avais évoqué l'idée que vous pouvez parler de Discodromo. Et moi je me suis dit, j'ai pas lu l'article qui correspond dans Hétéroclite parce que j'ai pas tout lu Hétéroclite. C'est quoi Discodromo ?
Kesako.
Discodromo, c'est un duo, en fait, de deux DJ italiens qui s'appellent Giacomo Garavelloni et Giovanni Turco.
Turco.
Si. Qui sont, comme leur nom l'indique, sont originaires d'Italie. En 2008, ils sont partis pour Berlin. Et là-bas, à Berlin, ils se sont associés à un troisième larron. Et qui s'appelle Boris, et ensemble, tous les trois, ils ont fondé les soirées Cocktail d'Amore. Alors, Cocktail d'Amore, qu'est-ce que c'est ? C'est les soirées queer à Berlin, qui sont très courues, très, très hype, très branchées, soirées un peu disco house, queer, pas mal de gays, de lesbiennes, de trans, de personnes aux sexualités, au genre un peu fluctuant.
Et c'est queer, quoi.
Et c'est très queer. Et donc, ça fait donc 6 ans maintenant, 5 ans, non, 7 ans, 7 ans que ces soirées existent. Et c'est toujours beaucoup de succès. Et là, c'est la première fois donc, que ce duo Discodromo se produira à Lyon. Ce sera le soir de... après la Marche des Fiertés, en fait, à partir de 23h, samedi 20 juin. Ça se passe au Transbo Club. C'est 15 euros, prévente conseillée. Voilà, je fais un peu la pub parce que, pour tout vous dire, je ne suis pas neutre en la matière, puisque Hétéroclite est co-organisateur. C'est une coproduction entre Le Lavoir Public et Hétéroclite.
Très bien.
Parfait.
Donc on vous encourage fortement à nous rejoindre sur cette soirée à partir de 23h samedi 20.
Et on aura donc on a donc un article dans Hétéroclite au sujet donc de
pour présenter un projet Discodromo, parce que c'est vrai que Gérald, tu le connaissais pas, mais c'est vrai que c'est ils sont pas forcément connus en France.
Ouais.
Comme je disais, c'est leur première venue à Lyon, mais ça mérite vraiment d'être d'être découvert. Et à la fin de l'article, on va faire un petit top 5 avec nos titres Discodromo préférés qu'on peut aller écouter sur YouTube, par exemple. Et ça permet aussi un peu de se familiariser avec cet univers et avec le genre de musique sur laquelle on va danser samedi 20.
Très bien. Alors, le rendez-vous est pris samedi 20 en soirée. Il y a d'ailleurs beaucoup, mais on en reparlera. Il y a d'autres soirées aussi, dont la Disconnexion, la soirée
fille. Exactement, voilà. Au coup d'État, vers la Perdue.
Voilà, donc on en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine.
Il y a une soirée Scream, il y a une soirée Délice, il y a une soirée au nouveau Crazy, puisque le Crazy a fermé ses portes rue Royale, hein. il n'est plus au 24 rue Royale, il a déménagé, il est désormais 52 quai Clémenceau, à Caluire, en face de l'île Barbe.
D'accord, ouais. Ça fait, c'est excentré là, ça ne pas aller loin.
C'est un peu plus loin.
Nord là-bas. Voilà. On peut y aller en barque, tu me diras ça.
On peut y aller en barque et c'est à la place de l'ancien Monte Cristo.
Alors, très rapidement, dans l'article, dans un des articles d'Hétéroclite, est-on sacré aussi, donc à Chelsea Manning. Et pourquoi donc un article sur Chelsea Manning, mon cher Romain ?
Alors, c'est une pièce, c'est un article sur une pièce qui se joue alors, ce soir, demain et après-demain au Lavoir Public à Lyon,
ouais.
Qui s'appelle Conversation privée. Et qui en fait se base sur les échanges internet entre Chelsea Manning, donc qui à l'époque était connue sous le nom de Bradley Manning. Donc c'est cette soldate trans américaine, une trans M2F, donc qui a été envoyée en Irak sous son identité masculine, donc de Bradley Manning à l'époque, pendant la guerre d'Irak, et qui a notamment fait fuiter des documents confidentiels concernant les activités de l'armée américaine en Irak, notamment des vidéos de bavures, où on voit des frappes aériennes qui touchent les civils, etc.
C'était pas très chirurgical,
voilà. Donc ça retrace une conversation qu'elle a eue avec un hacker qui a fini par prendre peur, en fait, à cause de la traque forcément de l'armée qui voulait savoir d'où venaient les fuites et qui l'a balancé aux autorités américaines. Et Chelsea Manning désormais est en prison. Elle a été condamnée à 35 ans de prison en août 2013 après avoir été arrêtée en mai 2010. Et voilà, elle suit un traitement hormonal en prison depuis janvier.
Et donc, la pièce, en fait, est tirée de...
Des conversations entre Chelsea Manning et celui qui l'a trahi...
Le fameux hacker.
Le fameux hacker, Adrien Lameau, qui désormais, du coup, qui a voulu un peu sauver ses fesses, mais du coup, vit caché désormais à cause de... Parce que forcément, ça n'a pas amélioré sa popularité, le fait d'avoir... C'est un peu le Judas, quoi. Et du coup, il vit, on ne sait pas où il est, mais il est fortement haï par toute la communauté des hackers.
Alors, donc, je rappelle rapidement que le guide Out sort aussi, est sorti la semaine dernière, qu'on peut le trouver partout. Partout, hein ?
Partout. Voilà. Alors, notamment dans les lieux gays et lesbiens, évidemment. Et puis, dans les offices de tourisme. Si vous allez à l'office de tourisme de Lyon, on y est.
Très bien. Alors, avant de conclure l'émission, à moins que toi, Laurence, tu aies envie d'évoquer quelque chose de particulier.
Non,
tout va bien.
Oui.
Bon.
On peut peut-être parler de Charlotte Soignon. Tu voulais en parler, Laurence, ou pas ?
Non. Oui, parce qu'elle revient à Lyon, c'est ça ?
Elle revient à Lyon.
Pour son nouveau spectacle, oui.
Elle sera à Lyon samedi et on fait gagner des places. C'est pour ça que je tenais à le dire. Ouais. Donc, si vous voulez assister au spectacle...
À la Bourse du Travail.
À la Bourse du Travail, envoyez un mail à redaction@heteroclite.org en précisant l'objet de votre demande.
Très bien. Bon, parfait. Tu fais très bien le commercial, nickel. Alors, pour finir, on va bientôt finir l'émission donc avec la seconde musique que tu nous apportas, ma chère Laurence, dont tu nous parleras. Je voudrais juste, puisqu'on a encore 5 minutes, quand même évoquer très rapidement les déboires de Tétu. Je ne sais pas si tu as une opinion, mais je sais que tu en as une. Concernant Tétu, alors Tétu, ces fameux magazines, le lot.
Ah non, je vois pas.
Tu vois pas, c'est sur papier glacé, voilà, ou qui parlait très peu des filles d'ailleurs. Hein,
c'était celui-là.
Vraiment le magazine gay. Ils avaient l'intention quand même d'en faire un magazine gay et lesbien, mais très vite c'est devenu gay, G-A-Y.
Il y a eu un Tétu E passé
Tétu
un temps.
C'était sur.
Mais c'était sur internet.
Tétue.com.
Alors ça existait en version ils l'ont vendu peut-être une ou deux fois, au moins une fois, avec la version papier du Tétu tout court. Oui, oui. Mais c'était
oui,
une
possible,
sorte de...
Ouais.
C'était vendu un peu comme un hors-série. Donc
comme
c'était
un supplément.
Comme un supplément, ouais, c'était plus petit. C'était un format plus petit qui était inséré dans le grand.
À l'origine, ils avaient aussi la volonté de toujours avoir une partie consacrée au VIH, à la lutte contre le VIH et le SIDA, avec les dernières informations sur l'évolution, etc., des recherches, etc. Puis c'est devenu un peu la portion congrue, petit à petit, même s'il existe toujours une ou deux pages.
Oui, il y a toujours quelques conseils sexo.
Voilà. Alors donc, c'est un magazine qui est né en 1995, qui a été fondé d'ailleurs, entre autres, par Didier Lestrade, que tu l'as dit tout à l'heure.
Par Pascal Loubet, par des militants d'ACT UP, en fait, à l'origine.
Voilà.
Avec le concours de Pierre Berger. En fait, ils sont allés voir Pierre Berger.
Ouais. Pour lui demander des sous-sous.
C'est Pierre Berger qui a avancé l'oseille.
Et Pierre Berger a soutenu à bout de bras et à coup d'euros, je dirais, un magazine qui n'a jamais vraiment réussi
dégager
à...
Dégager de bénéfices.
Dégager de bénéfices. Et puis, il a jeté l'éponge il y a 2 ans, je crois.
En 2013.
Voilà. À l'époque, il y a d'ailleurs eu un plan social, une partie de la rédaction
qui a été licenciée.
Voilà. Ça a été repris donc par un proche de François Hollande, d'ailleurs, homme d'affaires.
Par le financier de sa campagne.
Et le financier de sa campagne.
Jean-Jacques Ogier.
Jean-Jacques Ogier. Et puis là, apparemment, on a l'impression qu'on va bientôt voir une pierre tombale née en 95 et mort en 2015, RIP, parce qu'on a appris le 1er juin qu'ils étaient en redressement judiciaire. Donc ça sent le sapin, quand même.
C'est sûr que Tétu est dans une situation compliquée. Alors, ils perdent beaucoup moins d'argent que quand Pierre Berger a cédé le titre à Jean-Jacques Ogier, hein, puisqu'à l'époque, c'était, je crois, 2 millions d'euros de pertes par an. Aujourd'hui, ils sont que à 300 000 euros de pertes par an. Donc, si on veut, c'est dans la bonne pente. La pente est dans la bonne direction. On est un peu confronté aux mêmes difficultés à Hétéroclite. Je sais que c'est pas facile.
Ouais. Donc, mais t'es-tu une presse payante, Hétéroclite, une presse gratuite, on est d'accord.
Oui, c'est sûr que c'est des problématiques et des économies qui sont totalement différentes.
Est-ce que, par exemple, c'est un problème de publicité sur t'es-tu qui aurait... Parce que, bon, il faut dire aussi que le lectorat t'es-tu n'a quand même pas explosé. Je veux dire, ils ont toujours tourné en 30-35 000 lecteurs et c'était peut-être pas suffisant déjà pour ramasser. Oui. Et en plus, les recettes publicitaires baissent.
Oui. Et alors, dans le communiqué de presse qui a été publié par Tétu, justement, pour annoncer le fait qu'ils étaient en liquidation judiciaire, donc ils avaient 4 mois pour trouver un repreneur, ils pointent aussi le fait que Tétu n'appartient pas à un groupe de presse, c'est-à-dire que Tétu est un titre indépendant. C'est pas, par exemple, pour ça que Le Monde, Le Nouvel Obs, ça appartient au même propriétaire. Enfin, il y a des synergies de groupe qui peuvent se créer comme ça. C'est pas le cas de Tétu. Et donc, Tétu se retrouve seul et en position de faiblesse, notamment par rapport aux régies, dans les négociations avec les régies publicitaires qui essayent d'augmenter leur marge au maximum et du coup qui étranglent aussi un peu Tétu. Donc, je pense qu'il y a un problème de la part de ces régies-là, oui.
Mais de toute façon, nous on s'en fout. Non, je m'en fous pas, c'est pas vrai. Voir disparaître une presse LGBT, c'est toujours l'alarme à l'œil, même si j'étais personnellement pas un fan de Tétu, je dois le reconnaître. Mais nous, on a Hétéroclite, donc.
Le truc, c'est qu'on peut se demander si la presse LGBT, ça devient du tout Internet.
Ouais.
Est-ce que finalement, la communauté va pas encore plus se replier sur elle-même et que du coup, il y aura moins
et
de visibilité.
Plus la communauté LGBT que le reste de la presse, je dirais. Tout de suite, la communauté LGBT s'est emparée d'Internet dès les débuts. Hein. Ça a été un très grand consommateur d'Internet dès le
départ.
Mais
le problème, est-ce que être chacun devant son écran, forcément, ça va réduire la visibilité. Moi, je suppose. Hein.
Et ça pose aussi la question, mais nous la laisserons en suspens parce que nous allons devoir. pour nous séparer, ce sera pour une autre fois. Et je sais que Romain, tu avais participé à un débat là-dessus d'ailleurs, à Paris, au centre LGBTI de Paris. Y a-t-il une place, en fait, je dirais quelque part, c'est pas tout à fait ça le débat, mais y a-t-il une place pour un média national, on va dire, LGBT en France? Parce qu'on a aussi l'échec de Pink, quand même, qui a été un échec. Qui a été lancé à un grand coup de...
Oui, bah écoute, ils sont toujours là.
Il reste le cul, quoi, sur Pink.
Bah, il reste, il y a 2 heures
ils produisent de plus. Oui, mais c'était rediff ou quelques reportages. Voilà. Mais avant, Pink, ils avaient quand même l'ambition de faire une chaîne
en fait,
complète,
oui, voilà.
Généraliste, ouais. Toute la journée.
De faire une vraie chaîne. Oui, voilà.
Ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que c'est...
Ils n'ont jamais dépassé, je crois, atteint même l'objectif des 100 000 abonnés. Ouais. Il fallait faire 5 000 à donner pour qu'il soit rentable. Il n'était même pas arrivé. Donc, d'où la question, y a-t-il une place pour un média LGBT?
C'est sûr que c'est compliqué. Et puis, Internet, on dit Internet, les médias migrent vers Internet. Oui, certes, mais sauf que si c'était que ça, s'il y avait un modèle économique viable sur Internet, bah, on ferait tout ça et on abandonnerait le papier, mais au moins la presse... continuer à vivre sur Internet. Le problème, c'est que même sur Internet, le modèle économique, il est quand même extrêmement compliqué. C'est un peu ce que tente de faire YAG depuis 2008 ou 2008, je crois. Alors, ils vivent un peu de la publicité, mais les recettes publicitaires ne couvrent qu'une toute petite partie de leur budget.
De toute façon, on sait, la presse en général est en difficulté. De toute façon, la presse papier en général. Bien, donc Laurence va pouvoir nous annoncer le prochain numéro, sinon allons nous séparer. J'en profite pour t'embrasser, mon petit Romain.
Mais je t'embrasse.
On
également.
Se retrouve normalement, voilà. On ne dira pas où, mais on s'embrasse, voilà. On se retrouve vendredi soir.
Oui.
Normalement, musée Gadagne. Et moi, avec mon petit micro, tu me reconnaîtras.
Et avec rien à foutre.
Et rien à foutre, donc j'espère faire la connaissance. Ma petite Lolo, merci d'avoir été là ce soir. Je t'embrasse très fort aussi.
Merci à toi, à Bernard et à Romain.
Voilà. Bernardo, merci aussi d'avoir assuré. Quel est le morceau suivant?
Encore du Björk.
D'accord.
Play Dead, qui est sur son premier album Début. Voilà.
À la semaine prochaine. Merci de votre écoute.
Pluriel Gay. Pluriel Gay.